Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission du mardi à 12h30 sur Radio Craponne avec René-Joseph Irmana qui va nous parler aujourd'hui de la Côte d'Azur à la Belle Époque. Eh bien, on retrouve tout de suite René-Joseph. Bonjour.
Bonjour. Donc, on va évoquer cette période qu'on a appelée donc la Belle Époque, c'est-à-dire autour notamment des années 1900, après la fin du Second Empire, années 1900, voilà, avant la Grande Guerre, où la Côte d'Azur était le lieu, c'était une vraie capitale internationale avec les têtes couronnées, les aristocrates, c'était toute une faune mais de haut niveau, interlopes, mais aussi sur laquelle se greffaient des courtisanes, des croqueuses de diamants, des coureurs de dot, des aventuriers, aventurières. Et donc on va découvrir cette époque à la fois peut-être avec beaucoup de scandales, mais beaucoup de brio, hein, superbe. Et on va vous passer en entrée un extrait du film Katia de Robert Siodmak avec Romy Schneider et Kurt Jurgens de 1959, très connu, hein, qui évoque justement une de ses personnalités, Katia Goldoruki, ou Dolgoruki, pardonnez-moi, donc interprétée, je répète, par la toute jeune Romy Schneider en 1959, et qui évoque ses amours, notamment c'est une des personnalités, Katia, qui hantait, si on peut dire, ses châteaux et ses grands hôtels de la Côte d'Azur. On vous le passe en entrée. On se retrouve dans 3 minutes.
Anastasia Ivanovna Narishkin, première en géographie.
Tu t'as pris de raconter ce mensonge-là.
Elle se moquait de moi, me taquinait. Alors je...
Alors tu as dit n'importe quoi.
Non, pas n'importe quoi. Déjà, quand j'étais petite, je pensais à vous. Je vous voyais arriver à la maison et moi, je vous recevais toute seule.
Toi, une Dolgoruki, comment ça se fait que tu sois ici?
Oui, à l'Institut des jeunes filles sans dot, comme nous disons entre nous. Nous avons eu tous les malheurs. Mon père est mort de chagrin. Le domaine a été vendu, les bijoux aussi. Même le fameux collier qui était dans la famille depuis 300 ans.
Est-ce que tu n'as pas un frère officier?
Oui, à Saint-Pétersbourg. Père aurait voulu qu'il fasse un mariage d'argent, mais il a préféré faire un mariage d'amour. Voilà, voilà comment nous sommes les Dolgoruki.
Ah oui, je me rappelle. Est-ce qu'il n'a pas demandé à être muté au Caucase?
Parce qu'en province, quand on est pauvre, ça se voit moins. Et je voudrais oublier tout ça aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir aujourd'hui?
Je peux le dire?
Bien sûr, tu auras tout ce que tu voudras.
Alors, je voudrais faire une grande promenade au grand galop.
Au lac, et pousse les chevaux!
Donc, on a passé ce film d'anthologie superbe, donc qui évoque justement cette Katia Dolgoruka, qui était une jeune fille de 19 ans, qui devint la maîtresse de l'empereur. Elle l'avait rencontrée dans cet institut Smolny de Saint-Pétersbourg, où étaient éduquées les jeunes filles de la haute aristocratie. Ils avaient 48 ans d'écart, voilà, et au final, il l'épousera après la mort de l'impératrice. On sait qu'Alexandre Alexandre II, en l'occurrence, sera assassiné, victime d'un attentat. Ils auront 4 enfants, d'ailleurs, ensemble. Je répète, elle avait 19 ans, il en avait une 60aine. Et elle viendra justement sur la Riviera, où il aura une vie brillante. Donc, on la retrouvera dans notre narration, si je puis dire. Donc, le décor, c'était bien sur la Côte d'Azur, avec... Saint-Tropez n'existait pas encore, enfin existait mais n'était pas connu, c'était Nice, c'était Cannes, etc. Donc, les caps, les bords de mer, hein, et les grands hôtels, notamment à Nice, ça se passait en hiver et au printemps. C'était pas comme aujourd'hui en été. Cette tête couronnée, notamment, et cette haute aristocratie se retrouvait sur cette riviera, qu'on appelait cette riviera française, en hiver. Ils y passaient leurs hivers, leur printemps. C'était la saison hivernale, très brillante. Alors c'était toute une, je l'ai dit, aristocratie internationale. Il y avait dans une foule, mais de haut niveau, et puis aussi des toutes sortes de personnages plus douteux qui s'y greffaient. On y parlait 10 langues, c'était très cosmopolite. Alors il y avait bien sûr, on y reviendra, les Romanov. Hein, on vient d'évoquer le tsar de Russie, sa maîtresse, qui deviendra son épouse, je l'ai dit, morganatique, c'est-à-dire épouse discrète, sinon secrète. Et morganatique, on le sait, ça veut dire que l'épouse n'a pas le titre de souveraine, consort, et les enfants n'héritent pas de la couronne. Hein. C'est une sorte d'union privée, comme celle qui unit Louis XIV et Madame de Maintenon, sa dernière épouse. Alors il y avait les Romanov, les Habsbourg, les archiducs, et il y avait aussi, bien sûr, les princes de ces principautés allemandes, qui n'étaient pas unifiées, l'Allemagne, qui ne le sera qu'après 1870, ou ex-prince, hein, voilà. Et puis, bien sûr, les Windsor, Victoria notamment, et son fils, Édouard, futur roi, futur Édouard VII. Alors, il y avait des princes, je répète, déchus, des héritiers, des ex-princes, des princes régnants. Alors, couvert d'or, bien sûr, c'était l'or coulé à flot. Hein, voilà. Alors, par exemple, pour revenir, c'est la reine Victoria, qui était bien sûr régnante à l'époque, elle est morte en 1901, elle venait avec son train spécial, elle emmenait... La cour apportait tous les meubles de Balmoral, il y avait ses meubles, ses serviteurs, une centaine de courtisans, voilà. Et on louait, à une époque, elle a eu une villa, je pense qu'elle avait une villa, mais à un temps, elle louait tout un hôtel, la cour louait sur les collines du Simiez, voilà. Et son fils Édouard, futur Édouard VII, qui a régné après à l'âge de 60 ans, puisque sa mère est morte à 81 ans, et donc il a été un prince de Galles très longtemps. Mais aujourd'hui, le prince Charles, c'est pire encore, si on peut dire, puisqu'il a 71 ans, sa mère 93, donc c'est une très longue attente. Et il l'appelait la mère éternelle. Il était peut-être pressé de régner, voilà. Elle n'en finissait pas. Les Anglais croyaient qu'elle était éternelle après 64 ans de règne. Et lui, le prince Édouard, qui était un bon vivant, un personnage, alors gargantuesque un peu, vous voyez, digne de Rabelais, il avait un yacht avec 130 tonneaux. Sur le port de Nice, quoi. Voilà. Donc c'était toute une faune couverte d'or, voilà, avec aussi bien sûr des coureurs de dot, des courtisanes, je l'ai dit, des croqueuses de diamants, des escrocs, ce type Arsène Lupin, quoi, dans la foulée, et puis bien sûr les artistes, des comédiens, des actrices, et également des journalistes qui étaient attirés, bien sûr, qui voulaient faire des papiers sur ses personnalités. Alors on peut citer par exemple, il y a eu le souverain belge aussi, on y reviendra, Léopold II, et sa jeune maîtresse, Blanche de la Croix, là, qui était sur le Cap Ferrat, on y reviendra. Ils brisaient tous les tabous, hein, de ce 19e siècle. Hein, voilà. Ils avaient le droit, peut-être, le privilège de l'argent, le privilège de classe. Quoi. Il y avait aussi, par exemple, Louise de Saxe, une princesse allemande, hein, de ces principautés allemandes, qui venait à Menton. Elle était originaire de Dresde, avec son amant, le compositeur Enrico Toselli. Voilà. Il y avait aussi Sissi, la fameuse Élisabeth d'Autriche, qui, elle, fréquentait le grand hôtel sur le Cap Martin. Et elle était très férue de grec, de culture grecque. Elle prenait elle s'initiait au grec ancien. Et c'était un jeune éphèbe qui lui lisait des vers au bord de la mer, qui lui déclamait des vers d'Homère, etc. Et puis Eugénie, l'ex-impératrice, Eugénie de Montijo, la veuve à l'époque de Napoléon III, Ils habitaient en Angleterre, ils avaient été exilés en Angleterre, enfin ils s'étaient réfugiés en Angleterre, mais elle venait en ex-impératrice, également sur la côte, sur la ville. C'était la villa Cyrnos, ouais, voilà, et qui racontait ses souvenirs brillants du Second Empire. Et sur le Cap Ferrat, je viens d'en parler, Léopold II, roi des Belges, donc. Et qui, alors là c'est un personnage, j'ai lu un article, je me suis référé, très, très bon, très doux, très, voire élogieux, mais c'était un personnage assez scandaleux, c'était le deuxième roi des Belges. Il avait mis la main sur le Congo, qui était une colonie, qui est devenue le Congo belge, mais c'était devenu, le Congo était son territoire, c'était une possession privée. Hein. Ensuite il a été obligé de le transférer à l'État belge, mais c'était une possession privée, et alors on y pratiquait, c'était très dur, hein, une colonisation dure, un véritable esclavage, c'était un personnage assez scandaleux, quoi, faut le dire, voilà. Donc, on peut évoquer aussi, là, dans le décor, c'était assez désert, bien sûr, cette Côte d'Azur, à l'époque, mais il y avait quand même une sorte de tortillère, qu'on appelait pompeusement la compagnie des tramways Cannes-Nice, hein, qui desservait le littoral. Ça fait, c'était une tortillère superbe. Voilà. Et donc Léopold II, ce souverain quand même scandaleux dans l'histoire, il était tombé amoureux, là, c'était une véritable histoire d'amour, de cette jeune femme, d'une jeune fille de 16 ans. Hein. Voilà. On va dire Blanche de la Croix, hein, qui était une fille d'ouvrier, alors que lui en avait 64. Hein, voilà. Et ça sera la réussite, hein, pour cette fille. Elle aura un titre aristocratique, un titre de courtoisie, mais ça sera surtout la fortune pour elle. Voilà. Il avait construit une villa qu'on appelait la Villa Passable. Alors c'était pas très beau comme nom, mais qu'il a rebaptisé Les Cèdres, dans un parc de 14 hectares, bien sûr, en 1898. Voilà. C'était au-dessus de la rade de Villefranche. Alors c'était tout de même un personnage assez travailleur, assez solitaire, isolé de toutes les réceptions. Voilà. Mais personnage quand même assez scandaleux, je l'ai dit. Et puis par son emprise sur le Congo belge et l'exemple de la colonisation dure, implacable, infâme, hein, voilà. Et c'était un coureur de jupons, mais alors invétéré, un peu comme Édouard VII, le futur Édouard VII, et c'était les Lolitas, hein, qui fréquentaient les petites jeunes filles de 15-16 ans. Alors il y avait eu aussi, dit-on, une liaison avec Cléo de Mérode, une de ses courtisanes, une de ses cocottes du 19e siècle. On parlait de Cléopold. Bon. Mais donc à 64 ans, surtout, il rencontre une petite jeune fille, mais qui était, je pense, assez délurée, Blanche de la Croix, fille d'un ouvrier, 16 ans. Il a 64 ans, on est en 1899, et elle deviendra, mais ce sera un titre plus ou moins officieux, baronne de Cogam. Et donc, elle va le mener presque à la baguette, si on peut dire. C'est une liaison initialement secrète, mais dite secrète, qui sera, en réalité, c'est un secret de Polichinelle. Alors c'était bien arrangé, il y avait c'était des rencontres apparemment opportunes dans le parc. Madame, j'ai le plaisir de vous retrouver. C'était une apparence de grande de politesse, de courtoisie. Et puis tout l'entourage, les gardes du corps du souverain disparaissaient discrètement, ils se faisaient très très discrets, et c'était 2 heures de balade, le couple dans le parc, voilà, voire des rencontres au château. Hein. Et d'ailleurs, il lui avait fait donc construire une somptueuse villa, le Trianon, près de son château, de sa villa, qui ressemblait à un château, bien sûr, des Cèdres, voilà, sur la mer, hein, voilà, avec un immense parc. Alors, je l'ai dit, les policiers, tout le monde était au courant, il y avait un jeu de discrétion, et chacun se disparaissait. Il avait même neutralisé, parce que, bien sûr, les services secrets étaient informés, les services secrets français, par exemple, le ministère de l'Intérieur, de l'événement, de cette situation, de cette liaison. Ouais, voilà. Et donc, ils avaient quand même neutralisé le commissaire Paoli, qui était chargé de la surveillance rapprochée, avec l'ordre royal de Léopold. Donc il était neutralisé, et donc les rapports indiquaient, le roi a joué aux cartes. Les deux ont joué aux cartes, hein, pendant 2 heures, voilà. Donc il y avait d'autres témoins, par exemple l'architecte qui était ami du roi, Messia, hein, M-E-2-S-I-A-H, et donc je vous donnerai une citation. Alors, elle était, la jeune femme était devenue, c'était pas une oie blanche, hein, elle était d'ailleurs très coléreuse, et le roi en était vraiment bourreau, elle piquait des colères terribles, voilà, et il se soumettait à tous ses caprices, voilà. Et donc, elle avait par ailleurs un autre amant, parce qu'il était assez âgé quand même, Léopold, 64 ans, 65 ans, ils ont eu des enfants ensemble, et elle avait eu déjà et retrouvé ensuite un amant, un certain Emmanuel Durieux, qui était un beau jeune lieutenant, alors là qui peut-être la satisfaisait mieux sur le plan sexuel, et il vivait discrètement chez Blanche. Et donc, il semble que les enfants étaient de Durieux, ils s'étaient séparés, puis ils avaient renoué, voilà. Et c'était un personnage, d'après les rapports secrets, justement, plus que douteux, il avait été, je crois, chassé de l'armée. C'était un souteneur, enfin, un personnage trouble, voilà. Donc, c'était cette idylle, mais, et donc, ça a été sa réussite, hein, parce que, il lui offrait, elle a fait une fortune, bien sûr. Immense, hein, par les bienfaits du souverain, hein, du richissime Léopold, et négrier un peu, on pourrait dire, Léopold. Alors à Nice, là c'était Cannes, à Nice, alors qui était française depuis 1860, alors là aussi il y avait, d'abord, sous le Second Empire, hein, Nice a été rattachée à la France, elle était italienne, hein, et on accédait à l'époque par le chemin de fer, hein, il fallait 24 heures, à l'époque c'était assez court, hein, de Paris à la Côte d'Azur. Voilà. Et il y avait ce tortillard que j'ai évoqué qui couvrait le littoral. Voilà. C'était une petite ville à l'époque de 42 000 habitants, très provinciale, et puis elle s'est transformée bien sûr entre 1860 et 1870. C'était une capitale de la mode à la fois, avec des airs de Londres et de Paris. Voilà. Qui accueillait bien sûr... il y avait les casinos, les palaces, voilà, et elle se modernisait sous Napoléon III. Alors des grands hôtels sont construits à l'époque, l'hôtel anglais, l'hôtel des étrangers, c'est son nom, voilà. Et donc, on peut citer parmi ces personnages flamboyants, Marie Ratazzi, R-A-T-A-Z-I, comtesse de Solms, S-O-L-M-S, et qui sera aussi comtesse de Ruth, parce qu'il y a eu deux mariages, R-U-T-E. Alors, comme son nom, elle avait dans son nom le Bonaparte. En fait, c'était Marie Bonaparte Ratazzi. Elle était la petite fille de Lucien Bonaparte, l'un des frères, hein, de Bonaparte, de Napoléon. Donc, cousine. Issu de Germain, de Napoléon III, hein, voilà. Et par sa mère, qui s'appelait Laetitia, hein, comme la mère de Napoléon. Donc, elle est une personnalité connue, une journaliste, écrivain. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'elle était un peu bas bleu, quoi. Mais bon, elle était auteur, elle écrit beaucoup, elle a écrit ses mémoires. Donc, elle est devenue une reine de Nice, une locomotive. C'est-à-dire qu'elle attirait les gens. Voilà. Donc, je répète, son nom, Marie Laetitia Bonaparte. Donc, premier mariage de Solms, et ensuite Ruth de Ruth, R-U-T-E, donc petite fille. Elle avait, son père était un ministre irlandais. Hein, sa mère Laetitia avait été épousée un monsieur Whiz, qui était un ministre irlandais libéral, voilà. Et elle avait elle-même des idées républicaines. Et d'ailleurs, elle avait été exilée par son cousin, Napoléon III, à raison de ses idées républicaines réputées subversives, voilà, en 1853. Exil, donc à Savoie, qu'elle a eu notamment à Aix-les-Bains, c'était un peu son fief. Et puis elle séjournait, donc elle faisait des séjours réguliers, à Nice. Alors, elles étaient passionnées, par exemple, par une héroïne locale. Elle avait une dimension féministe, Catherine Séguran, qui était une héroïne niçoise, donc sur laquelle elle avait été écrite. Et puis, elle avait demandé qu'il y avait... C'était une espèce de Jeanne Hachette, hein, en 1543, qui avait aidé... Alors, je pense qu'il y a eu... à vérifier l'épisode historique, mais à chasser les Turcs. Enfin, je ne me souviens plus s'il y avait... C'est ce que j'ai noté et à préciser. Bon, elle se souvenait de cette héroïne, elle voulait la mettre en valeur, lui faire édifier une statue, voilà. Et ses idées de gauche, je répète, la mettaient un petit peu sur la touche sous le Second Empire, sous son cousin Napoléon III. Voilà. Alors, elle voulait surtout qu'on parle d'elle. Je donnerai des citations plus tard. Un polémiste, journaliste, Alphonse Carr, connu, l'appelait, je crois, la princesse Brouhaha, parce qu'elle voulait faire du boucan, elle voulait encore une fois se mettre en valeur, voilà. Alors on a des anecdotes, c'était un personnage qui avait toutes les audaces, bien sûr. En 1858, alors ça évoque aussi la belle Otero, elle avait fait le pari. Et elle a tenu d'entrer nue au cercle méditerranéen, qui était un cercle très huppé, dans le cadre d'un bal masqué. Alors elle était venue déguisée en ange. Ouais. Je pense qu'elle avait quand même une quarantaine d'années à l'époque. Et alors elle avait pour tout vêtement des petites ailes, un arc et un carquois, quoi, pour les flèches de l'amour. Et alors elle avait été discrètement exfiltrée, enfin... avec beaucoup de ménagement, quoi. Ça avait donc, là, il avait fait la une de l'actualité. Voilà. Donc, c'est un de ses personnages. Elle fut donc une de ces reines de la Riviera française. Voilà. Et on peut citer aussi, on en a parlé lors de l'ONU mission sur Louis II de Bavière, enfin, le roi devenu fou, le roi romantique et ses châteaux. Alors, son grand-père était Louis Ier de Bavière. Et son grand-père, on le sait, avait été chassé, avait dû abdiquer suite à sa liaison scandaleuse avec la courtisane Lola Montès. Lola Montès, il dépensait des dépenses folles pour cette courtisane. Donc on sait d'ailleurs que Louis II, qui fera la même chose, il fera des dépenses folles, il donnera des privilèges exorbitants à Wagner, et Wagner, on l'avait appelé Lolus, les journalistes de Munich l'avait rebaptisé, c'était invoquant Lola, c'était le courtisan qui avait succédé à la courtisane, et Louis Ier, qui avait 60 ans, il avait dû, encore une fois, exiler Lola Montès sous la pression, mais lui-même avait abdiqué à la suite, il s'était parmi en fait de ce scandale. Et Lola Montès fréquentera aussi la Côte d'Azur, d'ailleurs elle a un destin assez étonnant, cette grande aventurière. Ça paraissait étonnant. Elle signera un contrat avec un cirque, le cirque Barnum, le directeur du cirque. Mais c'était pas une décadence. Hein. Il y aura un numéro somptueux, une mise en scène fastueuse. Elle parcourra le monde avec ce cirque. Elle raconte sa vie. Voilà. Mais elle aura une vie, après cela, elle aura un épisode aux USA. Me semble-t-il, elle fera beaucoup de spectacles, mais alors on lui fera des pondeurs. Et puis en Australie, elle aura un épisode en Australie, là aussi, où elle aura un succès fou, quoi. Voilà. Et puis elle se convertira sur la fin de sa vie, et elle finira en odeur de sainteté, voilà. Et Louis Ier, je pense qu'après la séparation, il était, et après son abdication, il hantait aussi Nice, et d'ailleurs il sera une espèce de mécène. Il y passera ses hivers entre 1862 et 1868. Et je répète, il y aura son fils Maximilien, Maximilien II, et ensuite Louis II qui succédera à Maximilien. Voilà. Et donc lui, Louis Ier, 70 ans, vivra somptueusement cette Côte d'Azur, notamment à Nice, Cannes, etc., à Nice en particulier. Il sortira beaucoup, on le verra beaucoup, il inaugure le nouveau casino et il y mourra, et Nice lui fera des obsèques solennelles. Voilà. C'était donc toutes ces têtes couronnées sans frein à la fois sublime et scandaleux. Et puis toutes ces cours entre guillemets qui les entouraient. Pour y revenir, là je pense qu'on va vous passer deuxième intermède. Alors là, ça sera, on retrouvera le personnage d'Yvette Guibert, qui était une chanteuse populaire hein, de cette belle époque. Yvette Guibert qui interprète le fiacre. C'est une chanson un petit peu grivoise, mais aujourd'hui ça nous paraît bébête, quoi, à la limite, mais à l'époque ça faisait scandale. Et alors elle était dans l'entourage, elle avait, pour citer l'anecdote, ça concerne le prince de Galles, le futur Édouard VII, elle vient chanter pour lui, elle lui donne un récital, et alors il lui fait un pondeur, parce qu'apparemment elle n'y tenait pas, si j'ai bien compris, et elle avait demandé un cachet fastueux, plus cher que les cantatrices la plus célèbre, alors qu'elle était une simple chanteuse populaire, et il va régler le cachet, et donc elle chantera au début l'hôtesse qui accueille la châtelaine ou l'aristocrate est une personnalité assez pudibonde, hein. Je pense que c'est une vieille fille un peu pudibonde, et elle a donné des recommandations à Yvette Guibert de chanter des chansons dans un répertoire convenable, et puis elle s'aperçoit que son spectateur s'ennuie, illustre Édouard, bon, il en a ras le bol, et alors elle attaque son répertoire grivois en commençant par le fiacre, elle se lâche. Donc on va entendre cette chanson avec la voix d'époque enregistrée des années 1890 à peu près, voilà. On se retrouve dans 3 minutes, Yvette Guibert. Ce sera le dimanche 15 novembre, donc dans l'émission de M6. Derrière les stores baissés, derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Et puis une voix disant Léon, cacaille, oh là. Et puis une voix disant Léon, mais tu me fais mal, oh ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, cacaille, diable, hop là. Un vieux monsieur qui passait, s'écrit, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, cacaille, diable, hop là. Ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, cacaille, diable, hop là. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, cacaille, diable, hop là. Du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, cacaille, diable, hop là. Y'a plus besoin de nous cacher, oh donne donc 100 sous à se cocher. Avec les Romanov, on a évoqué Alexandre II, sa maîtresse, puis deuxième épouse, Katia Dolgoruki, ou Dolgoruka, voilà, avec laquelle il a eu des enfants, une liaison qui avait fait scandale, parce qu'il avait épousé cette jeune maîtresse qui avait 19 ans, hein, alors que lui en avait 48 peut-être, voilà. Et deux mois après le décès de l'impératrice, voilà. Mais donc là, je vais. Alexandre II, donc en 1864, il est sur la côte et il rencontre Napoléon III. Il y a des rencontres là officieuses, hein, un sommet discret avec l'empereur. France, et donc la famille impériale fréquente bien sûr les Romanov. Ils ont une propriété, cette Riviera à Nice en l'occurrence, la villa Belmont, la propriété Belmont. Alors là, c'est somptueux. Il y a un parc qu'on appelle aujourd'hui, il n'en reste que le parc impérial. À l'époque, il y avait 5 villas, un parc exotique qui était quasiment fantastique avec des cascades, des fontaines. C'était un peu le parc du Roi Soleil à Versailles. Versailles, quasiment, des fontaines. Alors, il y avait aussi des animaux, des volières. Il y avait des serres, des champs de violettes de Parme, des vergers avec 250 000 orangers et citronniers, des bois de mimosa. Enfin, c'était immense et superbe, un décor de rêve. En novembre, le 13 novembre 1864, le fils d'Alexandre II, le tsarévitch Nicolas, et son héritier, il a 21 ans, il vient sur la côte et il est fiancé à une jeune fille, Ingmar de Danemark, qui a 16 ans, donc c'est une princesse danoise. Et donc, dans la sœur, je le dis là en aparté, la sœur de cette jeune princesse, également donc de la famille danoise, épousera le futur Édouard VII, qu'on va trouver, et elle sera la reine Alexandra. Alors qu'Ingmar, on va y venir, j'anticipe, elle épousera in fine Alexandre III, le frère de Nicolas. Elle sera la mère donc de Nicolas II, l'empereur qui est assassiné avec la famille impériale en 1918. Ouais. Et donc Nicolas II, son fils, le fils d'Ingmar, qui deviendra Maria Féodorovna, son nom russifié, hein, et après conversion à l'orthodoxie, eh bien, Nicolas II et Georges V, le fils d'Alexandra et d'Édouard, sont cousins germains. Et donc ils se ressemblaient comme des jumeaux. Ils sont cousins germains par leur mère. Voilà. Mais à l'époque, elle est fiancée. On trouve ce fait plusieurs fois dans l'histoire. La jeune fille est fiancée, donc à, je l'ai dit, au jeune Nicolas Tsarevitch, mais qui a des problèmes de santé. Alors il s'installe à la villa Diesbach, hein, qui est près de la promenade des Anglais. Et ensuite, comme il ne va pas bien du tout, il s'installe à la villa Bermond, justement. Il est quasi mourant, auprès de sa mère, hein, l'épouse donc encore vivante d'Alexandre II. Voilà. Et il meurt le 24 octobre ou 24 avril 1865, voilà. Et il fait promettre à sa petite fiancée, justement, d'épouser son frère cadet, hein, d'épouser son frère qui deviendra Alexandre III. Et c'est ce qui se passe. Ingmar épouse Alexandre III, voilà. Elle deviendra, je l'ai dit, Maria Féodorovna. Elle sera la mère de Nicolas II. Et de l'impératrice, son épouse, qui est aussi une petite fille de Victoria, voilà. Et donc, elle échappera à la mort en 1918. Elle quittera la Russie en 1919. Elle sera exfiltrée là par Georges V. Georges V, donc son cousin, voilà, aussi, puisqu'elle est. Elle est sœur de, ou son neveu plutôt, voilà. Elle sera exfiltrée, elle vivra en exil, elle mourra en exil. Et donc, une chapelle est édifiée dans la villa Vermont, de style byzantin, en 1868, en hommage au tsarévitch Nicolas, qui est le frère aîné qui ne régnera jamais, voilà. Et c'est un. Elle jouxte cette chapelle, la cathédrale orthodoxe, qui est plutôt dans le gigantisme, qui sera édifiée entre 1902 et 1913, justement par Nicolas II, le fils d'Alexandre III, hein, et le fils d'Ingmar, Maria Féodorovna. Voilà. Et il sera cette chapelle du souvenir, donc sera édifiée par le futur tsar martyr Nicolas II. Voilà. Donc, ce sont là les Romanov. Hein. Et puis alors, j'en ai parlé, on mélange un peu la chronologie, mais enfin, à propos du père Alexandre II, j'ai parlé de cette Katia Dolgoruki, je l'ai dit, qui fut aussi une reine de Nice. Après la mort, Alexandre II est mort dans un attentat, hein, fomenté par des révolutionnaires, et elle sera une. Il viendra vivre pour l'essentiel de son temps à Nice. Hein, et elle va être une de ses héroïnes, une de ses locomotives. Elle meurt en 1880, mort d'Alexandre II dans un attentat. Et donc, Katia, qui appartenait quand même à l'aristocratie, à la haute aristocratie russe, eh bien, elle sera exilée par justement Alexandre III, par le fils. Elle sera exilée, elle quittera la Russie et vivra à Nice. Et donc, notamment, elle aura une passion, les fleurs, la colline du Mont Faron, elle y cultivera des champs de fleurs. Et elle, innovation de l'époque, des champs immenses, hein, elle a la passion. Un peu comme l'impératrice Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier, était passionnée de fleurs. Il y avait des jardins superbes, hein, dignes des jardins de Versailles, à la Malmaison. Et là aussi, ça sera sur le Mont Faron. Elle meurt en 1922 et elle allait visiter ces champs de fleurs. Ça paraît c'est authentique, avec une voiture électrique, voilà. Il y avait déjà ça existait déjà, c'était peut-être un prototype, voilà. Donc, on va passer, là c'était les Romanov, les Windsor. Alors là, ils sont très connus, bien sûr, Victoria, je l'ai dit, et son fils, le prince de Galles, le prince Édouard. Alors eux, c'est Cannes, voilà. Dans les années 1868, Cannes est une petite ville de 10 000 habitants, et donc... il y a aussi d'autres personnalités qui ont essaimé, qui ont hanté ces lieux brillantes. Hein. Par exemple, la marquise de Cunningham, qui fut eh bien, la favorite de George IV dans les années 1850. Hein, voilà. Et donc, ce futur Édouard VII, personnage, alors là, on l'a vu, on avait fait une émission sur l'entente cordiale, qui sera l'initiateur et le réalisateur de cette entente cordiale entre la France et l'Angleterre dans les années 1900, voilà. Après 1900, il règne entre 1900 et 1910, voilà. Et à cette époque, il a 30 ans. Alors là, c'est un personnage, je voulais dire, rabelaisien. Il est gros, il est grand, c'est un jouisseur, barbu, voilà. Il est très bon vivant, carrément débauché, il joue au casino, aux courses, c'est un coureur de jupons, frénétique, c'est un gros mangeur. Hein, voilà, il goûte tous les plaisirs de la vie. Et alors il est entouré, là il vient avec son yacht, de 130 tonneaux dans la baie de Nice, hein, voilà, avec son personnel. Il y a par exemple deux écuyers, dont un général, un maître d'hôtel autrichien, deux valets de pied, un valet de chambre. Et donc il épousera, on l'a dit, je viens de l'évoquer, une jeune fille de 22 ans, Alexandra du Danemark, qui est la sœur d'Ingmar, j'ai évoqué, voilà. Et donc lui, son fief, c'est à Cannes. Il fréquente alors le château de Thorenc, l'hôtel Grey d'Albion, le château de Tourtel. Il a son yacht aussi, je l'ai dit, sur le port de Cannes, hein, pas de Nice, de Cannes, voilà. Et puis parmi ses maîtresses, elles sont nombreuses, il y en a beaucoup, il y a une certaine Caroline Otero, qu'on a appelée, on sait, la belle Otero, qui est d'origine andalouse, voilà. Et alors, qui a eu un destin, elle a mal fini, enfin elle a fini dans la pauvreté en 65, hein, me semble-t-il. Elle est morte à cette époque, elle était très pauvre, hein, proche de la misère. Elle pensait que sa beauté serait éternelle, et donc elle avait eu des diamants, elle avait eu des fortunes. L'or l'avait coulé entre les doigts, mais elle n'avait pas su en conserver. Elle avait été cigale et pas fourmi. Et alors, elle avait été remarquée, vraiment une aventurière d'origine andalouse, à 13 ans. Je ne sais pas, elle devait faire plus vieille que son âge. Elle joue au casino, au hasard, hein, sans rien y connaître. Et alors, elle fait des gains, c'est conséquent. Et donc là, c'est à ce moment qu'il la remarque. Il a 60 ans, elle en a 16, hein, notre Édouard. Voilà. Et il y aura une liaison, c'est pas une histoire d'amour, hein, évidemment, c'est une liaison à la fois sexuelle, et puis c'est une de ses belles maîtresses qui font partie de sa panoplie, si on peut dire. Voilà. Alors, c'est là que je vais évoquer cette anecdote d'Yvette Guilbert, parmi d'autres maîtresses. Donc, c'est une Mrs. Ogden Coelé, qui est une américaine en fait, mais assez pudibonde, hein, et qui invite, qui est l'hôte, l'hôtesse de, du souverain, du futur souverain, du prince de Galles, et c'est elle qui invite à sa demande la chanteuse Yvette Guilbert, chanteuse populaire. Alors elle a un cachet, elle n'a pas très envie, semble-t-il, de se produire devant le Édouard, ça c'est étonnant, mais elle demande un cachet exorbitant, plus cher qu'une cantatrice de renom. On parle de 15 000 francs or, voilà. Et il accepte, voilà, il accepte parce que les moyens sont illimités, voilà. Et donc, elle, au début, elle a les recommandations de l'hôtesse. Attention, hein, il faudra choisir des chansons de votre répertoire correctes et décentes. Et puis, elle s'aperçoit qu'Edouard s'ennuie. Il se demande, il dit, mais on l'a chapitré. Et alors, elle sent l'impatience. Et alors, elle change le fiacre, qui à l'époque, bien sûr, aujourd'hui, ça nous fait sourire. Et puis, et d'autres chansons, la grivoise, voilà. Et ça plaît. À Édouard, au bon vivant, Édouard. Voilà. Donc c'est un essaim de jolies filles autour du souverain. Et notamment, petite anecdote, aujourd'hui ce serait pédophile, je pense, ces petites jeunes filles, c'était des Lolita, 15-16 ans. Alors il y a une jeune fille qu'il invite au restaurant, grand, bien sûr, grand palace, et on lui sert des crêpes. C'est un gros mangeur, des crêpes de grand chef, hein. Et alors il en ingurgite une dizaine, je crois, parce qu'il adore ça, et il demande la recette au chef. Alors le chef lui donne la recette de secret, et lui dit est-ce que c'est la recette a un nom? Alors le chef lui dit non. Alors il demande à la petite jeune fille quel est votre prénom, mon enfant? Elle répond Suzette. Et alors c'est là que sont nées les crêpes Suzette. Voilà. C'est pour la petite histoire. Voilà. Et puis on peut évoquer ici, alors la famille de Prusse, ses principaux. Enfin, alors là, c'est assez dramatique. C'est Frédéric III, qui est un souverain, une petite principauté d'Allemagne, ouais, qui fréquente Cannes, la villa Wenden, voilà, avenue favorite. Et il mourra en 1897, justement, à Cannes. Et là, il avait... c'est la principauté de Mecklembourg-Schwerin. Ouais, c'est principauté allemande, hein, en l'occurrence en Prusse. En 1889, c'est un grand ukrainien. Ces états tampons, hein, ces états timbre-poste, quasiment, qui ont été rassemblés après 1870 par Bismarck, après la défaite française. Hein, il avait fait l'union dans cette guerre contre la France. Alors lui, c'est un personnage, il est grand, il est blond, il est mélancolique, il est sérieux, voire austère, et il a épousé une Anastasia, une Romanov, qui est la petite fille de Nicolas Ier, hein, dans la branche cadette, voilà. Il l'épouse, donc elle adore, ils viennent sur la Riviera, eux aussi, donc c'est la... cette villa, cette Wenden, hein, voilà, la villa connue à l'époque. Donc, et elle est enjouée, frivole, elle est très différente de son époux, et donc elle dépense sans compter. Elle ne tient pas à rester dans la principauté allemande qui est très froide et austère, hein, même s'il y a le luxe aussi. Et donc elle adore la Riviera, ses fêtes, le carnaval, la fête des fleurs, enfin, etc., à Nice. Elle dépense, des dépenses somptuaires au casino, elle perd des sommes folles au casino. C'est un ménage un peu mal assorti, mais il adore sa jeune femme. Et ça provoque, un peu comme en Bavière, comme au temps de Louis II, de Louis Ier, puis de Louis II, eh bien, il est quasiment mis en demeure, le souverain, de faire cesser. Elle dépense, comment dire, toutes les recettes fiscales passent dans ses folies. Voilà. Et en 1896, il y a cette injonction quasiment de choisir entre la couronne et sa femme. Et donc finalement, il va suivre son épouse, parce qu'elle ne veut pas rester. Hein. Il était convenu, je crois qu'il y avait eu un accord avec le gouvernement, de Schleswig-Holstein, 6 mois dans la principauté et 6 mois libre à Cannes. Donc c'était ça. Donc finalement il choisit quand même de la suivre à Cannes. Et alors c'est une course folle, une course somptueuse, l'or coule à flot, les fêtes dans les villas Wenden, villa Nevada, villa Casbeck, voilà, qui ont leur célébrité à l'époque. Voilà. Et par exemple, il y a aussi le grand-duc Michel, qui est le frère d'Alexandre III, la comtesse avec sa maîtresse ou son épouse morganatique, la comtesse Sorby, voilà, qui sont dans cette villa Casbeck. Voilà. Et in fine, il y aura un scandale jamais élucidé. Frédéric III, on le trouve mort, il n'aime pas ses fêtes, on a dit, il est sérieux, discret, il est aussi pris par l'amour de son épouse, il ne peut pas la réfréner, quoi. Et on le trouve mort le 10 avril 1897, dans le parc, il a 46 ans, sous un mur de soutènement. Alors là, il y aura beaucoup de supputations. On a parlé de suicide, voilà. Et elle était très impopulaire, Anastasia, dans le grand-duché de Mecklembourg, Schwerin. Donc très impopulaire, tout au moins on l'accuse d'être responsable, pas un assassinat, mais d'être responsable de la mort de son époux, voilà. Et il aura des obsèques luthériennes, donc. Et elle sera. Il aura des obsèques luthériennes à Cannes, donc voilà. Et elle sera tensée dans le sermon même, au moment des obsèques du pasteur. Elle ne peut que s'incliner et faire amende honorable, voilà. Et alors, en épilogue, elle jouera quand même. Elle aurait eu probablement des amants, mais au final, elle jouera un rôle de mère de famille, dans le contexte de l'époque. Elle fera contracter de brillants mariages à ses enfants et aux enfants de son époux mort, du grand-duc. Par exemple, sa fille Alexandrine épousera en 1898 Christian de Danemark. Elle deviendra reine du Danemark. Voilà. Et alors ensuite, sa fille Cécile épousera le comprince, fils de Guillaume II, voilà, mais qui n'y règnera jamais. On le voit sur les bandes d'actualité d'époque, le fils de l'empereur Guillaume II, ils seront chassés en 1918, à la fin de la guerre. Voilà. Ça reste un mariage brillant. Et alors je pense qu'il y a, sous la plume de l'historien, l'article que j'ai compulsé, je pense qu'il y a une erreur, parce qu'il est dit que son fils Henri de Mecklembourg, elle lui fera épouser la reine Wilhelmine des Pays-Bas, qui est une jeune reine de 18 ans à l'époque, et qui règnera jusqu'en 1948. C'était l'icône des Pays-Bas, Wilhelmine. Elle règnera jusqu'en 1948 et abdiquera. Ça sera sa fille Juliana, connue, et qui régnera, elle, jusque dans les années 70. Juliana, sa fille, et il y aura une autre reine, Béatrix, ou Béatrice, sa fille, et actuellement c'est un prince, Christian, voilà. Mais je pense que c'est le beau-frère, je vais vérifier par ailleurs, c'est le beau-frère d'Anastasia, le frère d'un des grands ducs, Henri, qui épouse Wilhelmine. C'est une erreur de. Mais son fils aussi fait un brillant mariage, voilà. Donc finalement. Ça termine bien, et c'est peut-être cette vie de fête dans les casinos, dans les palaces, ces rencontres qui lui permettent de négocier. C'est des mariages arrangés, ces brillants mariages pour ses enfants. Donc voilà, au final, la morale est sauve. Donc, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Il me reste encore 10 minutes. Je vais peut-être. Je vais vous lire déjà quelques extraits, mais bon. De l'époque, enfin des citations de l'époque, par exemple cet architecte Messia, on revient à l'épisode de Léopold II, hein, et de sa toute jeune maîtresse, de ses Anne Blanche de la Croix, qui créera baronne de Vaugham, mais ce sera un titre un peu officieux, enfin, au scandale du gouvernement et de la cour de Bruxelles, hein, voilà. Avec qui ils ont des enfants, mais il semblerait qu'ils soient les enfants de l'amant qu'elle a, hein, je veux dire. Henri, voilà. Et donc, il l'a décrit. C'était une femme à la fois charmante et terrible. Quand elle était en colère, ça lui arrivait souvent. Elle faisait peur au roi lui-même, qui avait songé à lui donner son congé. Mais il l'aimait. Elle était très jeune et très belle. Il y avait entre eux une question de peau. Et jamais, quoi qu'elle fît, il ne l'aurait lâchée, en dépit des conseils de sa famille, des échos méchants des journaux et des lettres anonymes. Un jour qu'elle lui faisait une scène effroyable devant moi, le roi tout confus me dit « Allons prendre l'air, monsieur Messia. Nous reviendrons quand madame sera calmée. Ne faites pas attention, ça lui prend comme ça. Un quart d'heure après, elle n'y songe plus. » Et monsieur Messia ajoutait « Ces scènes changeaient le roi de toutes les flatteries qu'il recevait, de tous les échines qui se courbaient devant lui. » Et donc, elle a un amant, très discret, voire caché, Emmanuel Durieux, un beau lieutenant flambant neuf, qui fait office peut-être, pour la satisfaire, je pense, plus sexuellement, parce que le roi est assez âgé, il a plus de 65 ans, voilà. Et Blanche, donc, ne pouvait se passer de l'amant, elle l'hébergeait clandestinement, voilà. Et c'était un personnage douteux, Durieux, mais l'épousera après, et ils auront des enfants qui sont probablement de Durieux et non pas du roi, qu'on a pu le dire, voilà. Donc peut-être quelques citations, à propos de madame Ratazzi, comtesse Bonaparte Ratazzi, hein, voilà. Je ne la cite pas parce qu'il y a des extraits de ses ouvrages. Ça fait un peu bas bleu. Elle était la petite fille de Lucien Bonaparte, donc cousine de Napoléon III, on l'a dit. Et alors, elle avait voulu jouer, c'est un anecdotique, faire édifier une statue pour une héroïne. Elle avait une dimension féministe, Ségurane, qui était une héroïne niçoise. Hein. Alors ça, je lis ça, qui en 1543 avait fait fuir les Turcs qui assiégeaient la ville, une sorte de Jeanne Hachette. Mais bon, à vérifier ce point. Ouais. Quoi qu'il en soit, elle cherche à se faire remarquer. Hein, voilà, elle est un peu très narcissique. Hein. Elle disait furieusement, alors, Alphonse Carr, c'est un polémiste de l'époque, elle aurait voulu qu'il parle d'elle, notamment dans son roman Les Guêpes, dans sa revue philosophique et littéraire. Hein. Alors, Alphonse Carr déclare « Cette petite personne malfaisante qui exigeait mystérieusement, presque impérialement, si on voulait la croire, que je cause d'elle avec mes lecteurs. » Alors le ton monte, et c'est ce qu'elle souhaite. Hein. Elle veut qu'on parle d'elle dans ses feuilles. « Tu aimeras le bruit, dit-il. À ton nom de Marie, j'ajoute le nom de Brouhaha. » Voilà. « La princesse Bourra, dit-il, est jolie, mais elle a peu d'esprit et point de cœur. Elle reçoit beaucoup de monde, mais surtout du sexe masculin. Elle publie des romans, improvise des articles. Elle ne sait pas écrire. » Et Marie réplique vertement que Carr était jaloux de Zensu, parce qu'elle avait été, parmi ses amants, elle avait eu le romancier Zensu, parmi d'autres. Hein, voilà. Et l'auteur de « Des guêpes », donc Carr, déclare « La princesse Bourra, me dit maigre, son dépit vient de ne pas avoir été admis à s'assurer du contraire. » Voilà. Et en fait, on sait que elle a cette esclandre, enfin, superbe, enfin, elle apparaît nue dans un bal costumé, hein, on en a parlé, déguisée en amour, avec pour seul vêtement deux petites ailes, l'arc et le carquois. Les agents l'entraînent au vestiaire, où on la recouvrit son beau corps d'une tenture de velours. Voilà. C'est toute cette époque à la fois scandaleuse et fascinante, hein, de la Riviera. Aujourd'hui, il y a Saint-Tropez, dans les années d'après-guerre, et même avant, dès les années 20, Saint-Tropez a repris cette brillance avec le... Il y a eu Bébé, bien sûr, Gilles Bardot, la Madrague, et puis tous les ciné... la Nouvelle Vague, cinéaste, acteur, mais déjà avant, il y avait eu Colette, qui avait la Villa Muscade, Cocteau, Jean Marais, etc., qui fréquentaient, mais c'est limité à Saint-Tropez, hein, voilà. Alors, peut-être quelques... Je ne sais plus, j'ai fait des... noter quelques biographies, mais il me reste 5 minutes. Bon, Alors, bon, Lola Montes, on en a parlé, Ingmar du Danemark, Maria Fedorovna, l'épouse d'Alexandre III, ouais. Après avoir été la fiancée de Nicolas, le frère aîné, la mère de Nicolas II, destin tragique, et qui échappera à la mort alors que la famille impériale est massacrée en 1918, Nicolas, son épouse, leurs enfants, les princesses, les quatre archiduchesses, le petit, le tsarevitch, tous massacrés à Tsarskoïe-Selo, on le sait, elle échappe, elle est exfiltrée, je répète, c'est Georges V, son neveu, qui, met un vaisseau à sa disposition, un vaisseau militaire, elle s'exile en Angleterre, voilà. J'ai parlé de Lola Montes, Marie-Laetitia Bonaparte Vise, je viens d'en parler, également Blanche de la Croix, donc baronne de Vaugham, on en a parlé aussi, Ekaterina Dolgoruka, ou Dolgorukova, enfin, dans la consonance, maîtresse d'Alexandre II, ce beau film, avec de 1959, dont on vous a passé un extrait, avec Kurt Jürgens, qui a 66 ans à l'époque, ils ont l'âge des personnages, et Romy Schneider, qui a une vingtaine d'années, voilà. Cet épisode, on voit dans la pension, Smolny, où il la remarque, il tourne très lourd, il a 19 ans, et c'est une idylle, voilà, ils auront des enfants, pour 48, voilà. Georges, Olga, Boris et Katerina, mais qui n'entrent pas dans la succession à la couronne, puisqu'il l'épouse après la mort de l'impératrice, en juin 1880. Et le 18 juillet suivant, il l'épouse, ce qui fait scandale, bien sûr. Voilà. Et c'est un mariage, j'y reviens, morganatique, c'est-à-dire un mariage privé. Elle n'a pas le titre de tsarine, et les enfants n'héritent pas, n'ont pas de droit à la succession. Voilà. Il est assassiné, Alexandre II, en mars 1881, et son successeur, Alexandre III, qui a épousé Ingmar, je viens d'en parler. La jeune princesse danoise expulse la princesse Dolgorukova qui se réfugie en France, je répète, sur la Riviera, et elle vit aisément grâce à une rente de 34 millions de roubles, la fortune laissée par son défunt époux Alexandre II. Elle meurt à Nice le 15 février 1922 dans sa villa Georges, voilà. Et il a assisté bien sûr à l'effondrement de l'Empire et de la dynastie Romanov. Il est enterré dans le cimetière de Nice. Voilà. Et on va vous passer le dernier intermède. Ça sera un extrait, ça sera le Papillon d'Offenbach. C'est bien sûr le compositeur de l'époque, très léger. C'est un ballet d'Offenbach. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner mes coordonnées. guy.feuillet@orange.fr si vous voulez me contacter. guy.feuillet avec un F comme François, comme un feuillet de papier, @orange.fr. voilà, à bientôt chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.